おかしいおかしい聞いてみ
Bonsoir. Tribune de la presse de ce soir vous propose trois thèmes à savoir. Tractation au sein du groupe parlementaire pour la composition de la commission électorale nationale indépendante CENI en cible. Ensuite, confusion persistante à l'Assemblée provinciale de la ville province de Kinshasa. Et enfin, discours du président Joseph Kabila à la 65e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État congolais a affirmé la détermination de la RDC à éradiquer le phénomène des groupes armés sur son territoire. Il a aussi abordé la question sur l'organisation des élections. Trois journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Joël Kadé Ndanga. Il est éditeur du journal Impact News. C'est un bi-hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadé Ndanga.
Bonsoir confrère, merci de l'invitation.
Innocent Kaboukala, il est journaliste à Global Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent Kaboukala.
Bonsoir Guy.
Erickson Moutouba, il est journaliste à la radio Victoire Horizon, c'est une radio qui émet depuis Litembo au Nord Kivu. Bonsoir Erickson Moutouba.
Bonsoir Guy Mabé, bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Comment la presse écrite a traité les différents thèmes sélectionnés pour le débat de ce soir? Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Kakak.
Bonsoir. La composition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante et la situation qui prévaut à l'Assemblée provinciale de Kinshasa figurent parmi les sujets qui ont occupé la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Pour le potentiel, la majorité et l'opposition bloquent la Commission électorale nationale indépendante, ce qui fait croire que le suspense demeure autour de la désignation de 7 membres de la CENI. Bureau de la CENI, l'opposition non institutionnelle et l'UDPS driblent toute la République. Selon ce journal, l'ODR, le MLC et les chrétiens démocrates ont déjà désigné leur candidat au bureau de cette commission. Finalement, précise la République, qu'il s'agisse de l'ODR ou des chrétiens démocrates, le consensus a été dégagé à la Congolaise. Partage du gâteau de la CENI, l'UDPS trahit, soutient le phare. Ce journal affirme que les trois groupes parlementaires de l'opposition ont déjà désigné chacun un représentant à la CENI. Contrairement aux attentes, aucun poste n'est réservé à l'UDPS. Dans le camp d'Étienne Tshisekedi, cela est considéré comme la trahison. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la situation qui prévaut à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À ce sujet, le potentiel qui revient à la charge souligne que la présidence de la République s'implique dans la question de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce journal rapporte que, garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État serait favorable à un dénouement politique. Pour s'intéressant à la confusion qui prévaut à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, estime que la justice a ses raisons que la religion ne connaît pas. Ce journal qui condamne l'attitude du procureur général de la République pense que celui-ci se mêle d'une crise interne à cette assemblée provinciale.
Merci Samuel Kakak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes journaliste à Global Télévision. C'est une télévision qui est née depuis Kinshasa. Comment vous appréciez le travail fait par la presse chinoise de cette semaine?
C'est un bon travail. Je crois que l'essentiel des sujets, du point des sujets qui sont à la ligne, ont été traités. Et donc, c'est bien fait. Mais j'aurais souhaité quand même ajouter, par exemple, quelque chose sur ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, notamment les différentes interpellations avec le vice-premier ministre et ministre du Travail et la province sociale. Et donc, je crois que c'est un sujet aussi important. Pour autant que lorsque cette invitation a été lancée, on a eu quand même quelques petites confusions. Je crois que la presse pourrait bien saisir cette opportunité pour en parler.
Joël Kadé Ndanga, vous êtes éditeur du journal Impact News. C'est un bi-hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous appréciez le travail de la presse cette semaine?
Bon, en effet, la presse a traité les questions qui ont fait effectivement l'actualité. Notamment, il s'agit de la question au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où un désordre règne. Et la presse a effectivement fait son travail tel qu'il se doit, et également la question relative aux gymnastiques autour de l'accès à la composition de la Commission nationale électorale indépendante. Je pense que c'est tout ce à quoi on pouvait s'attendre cette semaine.
Nelson Rutuba, vous êtes journaliste à la radio Victoire Horizon, une radio qui est née depuis Butembo au Nord Kivu. Quelle est la qualité qui a dominé dans la province du Nord Kivu cette semaine?
Merci beaucoup, cher confrère Timate, de cette occasion que vous nous offrez encore une fois pour parler de certains sujets d'actualité dans les pays qui sont bloqués. À Butembo, l'actualité cette semaine était marquée par certains cas d'insécurité enregistrés ça et là. Presque au quotidien dans la ville de Butembo. À cela s'ajoute la construction par le gouvernement congolais de plus de 60 maisons en faveur des populations de plus de 4 localités du territoire de Lubero. Cette opération s'inscrivait donc dans la logique d'encourager ces populations à retourner dans leur milieu respectif qu'elles avaient abandonné, bien sûr, à cause de l'insécurité qui faisait encore sortir dans la province du Nord Kivu. Il faut signaler que cette opération a été rendue possible grâce au ministère des Affaires sociales, humanitaires et de la solidarité nationale. Voilà ce qu'on fait d'une manière laconique, ce qui a fait l'actualité cette semaine en ville de Butembo en particulier et dans les grands nord du Vaud en général.
Merci. Avant d'aborder le débat de ce soir, nous allons dire un mot au sujet du décès de M. Dominique Sakombi-Nyongo. Comme vous le savez, c'est depuis lundi aux environs de 18h que M. Dominique Sakombi est mort au centre hospitalier Naliema Saint-Père ici à Kinshasa. C'est là qu'il a été transporté d'urgence après avoir piqué une crise selon une source proche de sa famille. L'ancien ministre de l'Information sous Mobutu et sous Laurent Désiré Kabila, âgé de 70 ans, laisse plusieurs enfants. Joël Kabé Ndanga, nous allons lire le manchette de certains journaux qui étaient consacrés à la disparition de M. Sakombi. Ici, nous avons le quotidien Le Palmarès du 28 septembre 2010. Sous la manchette, il dit ceci: la fin d'un baobab de la presse, Dominique Sakombi Inongo est décédé hier. Ça, c'était Le Palmarès du mardi. Et là, nous avons le quotidien La Référence Plus, sur la manchette et le titre, les médias éprouvés depuis hier, Dominique Sakombi Inongo tire sa révérence. Comment vous réagissez par rapport à la mort de ces chevronnés de la presse?
Très cher confrère, lorsque, au sein de notre rédaction, nous avons appris le décès de ce baobab de la presse, comme les confrères venaient tantôt là de le dire, et c'était une peine parce que la presse congolaise venait de perdre quelqu'un qui s'est battu pour la forger et pour contribuer à sa construction. On ne peut pas se passer du travail abattu par cet homme qui a été repéré par les politiques dans les médias ou dans la presse. Et c'est de là qu'il est parti pour occuper toutes les autres fonctions dans la vie politique ou diplomatique de notre pays. Donc c'est une perte, peut-être qu'il ne saura pas être facilement comblé dans le peu de temps. Toutes nos condoléances au nom de notre rédaction à sa famille et beaucoup plus étendu à la famille communicationnelle du Congo.
Oui, Inosa Kabukala, comment vous commentez la mort de Dominique Sakombi Nyongo? Nous savons que c'est un monsieur qui a pris part active à l'évolution de la presse en République démocratique du Congo depuis les années 50, 60, 70. Et comment vous commentez la disparition de ce baobab de la presse?
Et tout le monde est unanime, hein, c'est un baobab, c'est pas n'importe qui, parce qu'on parle de Dominique Sakombi Nyongo. Je crois que quiconque vient à la presse, tu sais de qui il est question. Sakombi Nyongo, c'est un grand, peut-être même le mot que nous utilisons, je peux dire, on risque de le trahir parce qu'ils sont faibles pour traduire l'immensité de ces personnes. Et donc, moi personnellement, je crois que c'est plus un petit témoignage dans le sens que je n'ai pas peut-être vécu avec lui, mais j'ai eu le temps de l'apprécier, déjà très jeune, lorsque j'ai vu cet homme, c'est vrai, dans la presse. C'est parmi des gens qui nous ont donné le goût de faire ce métier. Et ici, j'ai toujours pensé que pour faire la presse, il faut avoir la possibilité de bien parler. Et Sakombi, justement, c'est quelqu'un qui a marqué toutes les personnes qui aimaient bien faire ce métier, du moins du côté de l'art oratoire. Et vous voyez, lorsqu'il a été, par exemple, ministre de la communication des médias, porte-parole du gouvernement, et chaque fois qu'il faisait le compte-rendu, et moi j'étais, c'était comme un grand fanatique de cet homme, au point que je me souviens, par moment, je pouvais m'enfermer, essayer de parler comme lui. Et donc, quand la pente qui déborde, ça ne peut qu'inquiéter.
Comment vous avez-vous accueilli à Butembo la nouvelle de la disparition de Dominique Sakombi Inongo?
Bien sûr, lorsque nous avons appris la mort de ce prisonnier de la paix, nous avons tous été surpris. Ainsi que je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Dominique disparu en particulier et à tous les professionnels des médias et consultants en communication générale. Vous savez, chers confrères, Dominique Sakombi Inongo est quelqu'un qui a marqué l'histoire de notre pays, d'abord avec le MPR pendant la Deuxième République, où il était un grand mobilisateur légitime jusqu'à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, ce dernier qui l'a récupéré à partir de son talent. Sakombi, toujours égal à lui-même, a occupé de grandes fonctions dans le pays jusqu'à sa mort, où il occupait encore le poste du premier vice-président de la haute autorité des médias. C'est pour dire que Sakombi restera un exemple à suivre pour nous qui sommes en train de prêter dans ce monde journalistique. Il y a donc beaucoup à dire à propos de Sakombi, mais nous ne pouvons que souhaiter que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. Préparation au sein des groupes parlementaires pour la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI en cible. Les premières propositions au poste des membres du bureau de la CENI sont connues. Ces propositions proviennent de certains groupes parlementaires de l'opposition. Alors que du côté de l'Alliance de la majorité présidentielle, on entend, selon les sources de l'ANP, les derniers réglages qui seront faits par Joseph Kabila, l'autorité morale de cette plateforme politique. L'Assemblée nationale a par ailleurs accordé une semaine de plus pour finaliser les listes. Les détails avec Julien Namoni.
L'opinion publique devrait encore attendre une semaine pour connaître de manière définitive les noms de tous les candidats membres du bureau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Si Gilbert Kiakwama, président du groupe parlementaire chrétien-démocrate, a annoncé sans ambiguïté la candidature de Mme Carole Kabangankoy, au sein du bureau de la CENI, l'UMLC lui détient encore une liste de trois noms, dont le plus cité est celui du professeur Jacques Goli, sénateur sur les bancs du MLC à la haute chambre du Parlement. En revanche, au groupe parlementaire de l'ODER, ordre des démocrates républicains, trois noms sont cités, notamment celui du député Laurent Ndaye Nkondo, Jérôme Bonceau de l'INELIC et de Félix Tshisekedi. Enfin, l'Alliance pour la majorité présidentielle attend pour l'instant, selon les sources de l'ANP, les derniers réglages qui seront faits par Joseph Kabila, l'autorité morale de cette plateforme politique. Quoi qu'il en soit, le bureau de la CENI ne sera pas composé seulement de personnalités indépendantes, mais aussi politiques.
Joël Kadé Ndanga, certainement, sont déjà connus. Apparemment, les choses se passent avec peu de problèmes. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue.
Pas avec peu de problèmes, comme vous avez à le dire. Je ne pense pas que ça se passe avec peu de problèmes. Je pense que, comme je l'ai à le dire une fois dans un de nos éditoriaux, la classe politique congolaise semble ne pas marquer les pas vers l'organisation des élections générales l'année prochaine.
Pourquoi? Pourtant, les consultations se tiennent pour la constitution de la CENI.
Non, la constitution de la CENI, vous comprendrez, depuis que le président de l'Assemblée nationale avait demandé que les groupes parlementaires puissent apprêter les noms pour déposer les candidatures, vous comprendrez que nous avons pris plus d'une semaine, il avait reporté ça pour cette semaine, vous comprenez encore qu'il y a encore du temps à prendre devant. Et pourtant, cette session est
budgétaire,
prioritairement budgétaire. Mais jusqu'à maintenant, si ça ne va pas au niveau de la CENI, les discussions sont encore là, vous comprenez qu'on marque le pas vers les élections. Et autre chose qu'il faut interpréter de toutes ces gymnastiques, c'est que la classe politique, particulièrement ceux qui sont au Parlement, en tout cas, ils ne sont pas pressés d'aller aux élections. Et tous jouent, comme j'ai eu à le dire, un peu à une certaine prolongation.
C'est pourquoi vous comprendrez. Et cela même quand certains confrères ont dit que l'UDPS a été trahi, ainsi de suite, moi je ne vois pas comment est-ce que l'UDPS pouvait s'attendre que cette fois-ci, elle soit remerciée ou associée. La première fois, c'est l'UDPS qui avait demandé à l'époque, vous vous rappellerez, qu'il y ait la réorganisation du dialogue intercongolais, ça veut dire d'une manière inclusive et totale. Et à l'époque, il y a eu encore une sorte d'une opposition qui avait mis à l'écart celui qui attendait être le vice-président pour le compte de l'opposition. Alors je ne vois pas comment est-ce
que l'opposition politique.
De l'opposition politique à l'époque, vous le dire. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, l'UDPS pouvait s'attendre à ce qu'on lui réserve un fauteuil au sein de cette commission. Donc c'est pour vous dire qu'on est en train de marquer les pas sur place et la plupart de nos élus jouent pratiquement à la prolongation.
Oui, et M. Kaboukala, Joël Kabou, dit que la classe politique congolaise, surtout celle qui est au Parlement, semble ne pas être pressée d'aller aux élections. Vous partagez ce point de vue?
Et je partage ce point de vue, parce que pour autant qu'on est habitué dans ce pays à toujours des fantaisies lorsqu'il faut prendre de grandes décisions. Et c'est le cas actuellement. Ces gens qui sont au Parlement, ils savent très bien tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir désigner les gens dans cette fameuse commission électorale nationale indépendante. Ils savent. Et ça ne peut pas prendre du temps en principe. Mais de faire comme ils sont en train de le faire, ils savent pourquoi ils le font.
C'était facile, surtout pour l'opposition qui est plurielle.
L'opposition a toujours son caractère pluriel là, dans ce pays. C'est un problème de culture. Ici, dans notre opposition, c'est-à-dire, il y a toujours ceux qui se sentent frustrés. Est-ce que l'UDPS, on peut dire que c'est le seul parti qui puisse exister en termes d'opposition pour que l'on puisse parler des élections, il faut nécessairement qu'on mette l'UDPS là-dedans. Ce sont des petites réflexions que l'on peut faire. Et donc, c'est toujours cette guerre de leadership à ce niveau-là. Si les choses au niveau de l'AMP semblent être faciles, parce que vous savez, là je vais citer une dame qui est actuellement au Sénat, Eve Bavey, parce que j'avais reçu au cours d'une des émissions, déjà c'était en 2006, avant même que nous allions aux élections de 2006. Elle disait ceci: si cela est facile dans les groupes monolithiques, parce qu'il y a un chef qui décide, et on suit le mot d'ordre, mais ça ne sera jamais facile pour l'opposition. Pour autant qu'il y a toujours ce caractère pluriel qui reste, parce qu'il y a divergence de point de vue. Pourquoi divergence de point de vue? Il y a toujours des gens qui se sentent très faibles et des autres qui se sentent très forts. L'UDPS se sent toujours très forte, comme la vraie opposition, et ça c'est marqué dans l'opinion. Et les autres qui pensent être dans l'opposition combattent justement l'UDPS parce qu'ils estiment qu'eux sont faibles, alors il faut faire un effort pour composer avec les autres. C'est en quelque sorte une guerre de positionnement. Donc de cette manière-là, je ne vois pas comment on peut arriver à trouver un consensus autour de la désignation des candidats à ces trois postes que réservés à l'opposition par rapport à la CENI.
Pourtant, il y a des mecs qui sont déjà cités. Hein? Les MNC parlent de Jacques Joly, le créateur, le groupe parlementaire. Le MNC, comme JPCD, parle de Mme Ducol.
Oui.
Et bon, évidemment, le problème se pose beaucoup plus au niveau de l'ODER, qui a trois personnalités, notamment Ndaya, Jérôme Bonso et Félix Tshisekedi.
J'ai suivi François Mamba lorsque on avait énoncé la composition du bureau de la CENI. Au départ, il était pour, d'abord, que le MLC, le parti qu'il défend, puisse avoir un candidat, et qu'un autre candidat viendrait de l'opposition au Parlement, et que tout le MLC, et qui, l'UDPS, qui devrait avoir. Mais après un temps, lorsque l'UDPS a révélé sa position, mais on a été surpris, de la même façon on va y passer pour dire que il était surpris par la réaction de l'UDPS, et que par conséquent,
c'était pas la réaction de l'UDPS.
La réaction de l'UDPS était que l'UDPS pensait prendre les trois postes et même prendre la présidence de la CENI. Parce que l'UDPS estimait que tous ceux qui sont, ceux qui sont en opposition au Parlement, n'incarnent pas l'indépendance recherchée.
Parce que l'idéal, c'est ça.
Pardon,
votre source, vous direz à vous
de
l'information.
La position de l'UDPS.
Oui.
La position de l'UDPS. Moi, j'ai lu ça. Il y a un journal qui en a parlé, mais il y a aussi une confidence qui m'a fait. Moi, vous savez, on est journaliste, on ne peut pas toujours citer toutes les sources, mais il y a une source aussi concordante, proche de l'UDPS, qui a estimé que nécessairement l'UDPS devait prendre les trois postes, et estimant que la méthode qui devait être appliquée quant à l'organisation des élections, elle devait commencer par le recensement. C'est une position qui n'est pas partagée par le reste des membres qui, des partis qui sont à l'opposition.
Alexandre Leroutouba, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent rapidement, surtout au sein de l'opposition?
Oui, la question de la composition du bureau de la commission électorale indépendante, il faut bien le dire, suscite encore des commentaires et des débats, tant à Kinshasa comme dans le reste du pays. La classe politique congolaise se montre débordée par cette question où des tractations sont loin d'être clôturées pour aboutir finalement au choix de ces 7 membres qui vont composer ces bureaux, dont 4 de la majorité et 3 de l'opposition. Vous constatez avec moi, l'unanimité n'est toujours pas au rendez-vous dans ce dossier où la majorité et l'opposition prennent encore les pieds pour désigner et présenter officiellement leurs représentants à l'Assemblée nationale, bénéficiés par le président de la Chambre basse du Parlement, étant déjà dépassé, mais les tractations continuent. Ce qu'il faut dire, c'est que chacun des partis politiques veut faire partie de la CENI. Ce qui est pratiquement impossible à notre peuple et à vie. Si à la majorité, l'on est encore discret à ce niveau et le match se joue encore à la présidence de la République, ce n'est pas le cas à l'opposition où les débats étaient toujours. D'un côté, le MSC, le chrétien démocrate, ou l'ordre des démocrates républicains, qui constitue l'opposition parlementaire, et de l'autre côté, l'UDPS et compagnon, qui constitue l'opposition extra-institutionnelle. Les contradictions vont toujours contrer pour les choix qui étaient 3 membres, mais selon donc les dernières informations, la carte se joue déjà au sein de l'opposition parlementaire qui semble écartée, ceux qui ne sont pas dans les institutions, comme l'IDPS qui serait en voie de perdre même un seul vote comme promis par le MSC. Je pense que dans tout ceci, et que la loi stipule que la CENI doit être dirigée par des personnes indépendantes, ceci implique que l'on a besoin des gens qui vont travailler dans toute son équité pour le compte du peuple congolais qui a besoin des élections libres, transparentes, démocratiques. Cependant, la manière dont les choses, l'on a comme impression que les gens risqueraient d'être au service de leur coalition politique. Et qui ne peut pas favoriser un bon climat dans la période post-électorale. Et une fois que les gens ne répondaient pas à la préoccupation populaire, comme la société civile congolaise semble être politisée, il ne peut pas non plus qu'exclure que les animateurs de la CENI proviennent des partis politiques.
Merci. Joël Kadé, si il arrivait que l'UDPS n'obtient aucun poste dans ce bureau de la CENI, quelles pourraient être les conséquences sur le processus électoral?
Je ne vois aucune conséquence, très cher confrère. Et la commission électorale nationale indépendante, la CENI, c'est un organe technique. Il n'a rien à voir avec le politique. Bon, bien sûr, tous ceux qui fabriquent les lois chez nous les font sur mesure. Ils le testent sur mesure en fonction de leurs intérêts. Et aujourd'hui, s'il y a des problèmes, ce n'est pas parce que on n'a pas des experts. C'est pour dire que ça n'aura aucun effet, ça n'aura aucune conséquence si l'UDPS ne présentait pas son candidat. Le problème qui se passe ici, c'est parce que les gens veulent se retrouver au nom de leurs intérêts et c'est en préparant, en nous jetant quelque chose de négatif dans l'organisation des élections, c'est-à-dire si nous avons le nôtre là-bas, il va contrôler le vote. En effet, ça n'a aucun impact parce que tel que sont les membres, n'est-ce pas, de l'Assemblée générale au niveau national. Ils ne seront pas, par exemple, à Boutembo où se trouve notre confrère, ils ne seront pas à Kasumbalesa, ils ne seront pas non plus au Bas-Congo, ils ne seront pas là-bas. Mais les gens ont une petite idée, croyant qu'en ayant les leurs là-bas, ça veut dire qu'ipso facto, ils peuvent jouer sur les résultats.
Innocent Kabukala, avec cette situation, comment vous entrevoyez l'avenir du processus électoral au Congo?
C'est quand même très dangereux. J'ai comme l'impression, d'ailleurs, je l'avais dit tout à l'heure, mais quand vous lui posez la question, est-ce qu'il y aura-t-il une conséquence, pourquoi il dit qu'il ne voit pas une conséquence? Mais pourtant, il l'a dit, déjà, d'entrer en matière, lorsque vous avez posé cette première question. Mais la conséquence, c'est que pourquoi allons-nous d'exclusion à l'exclusion? Mais c'est pour qu'il n'y ait pas d'élection. Tout simplement, c'est ça la conséquence. Parce que l'UDPS ne va pas se laisser faire. Ça, c'est clair. Il ne va pas se laisser faire. Et donc, la première conséquence, c'est que l'opposition lui-même devient très biaisée. Et donc, je ne pense pas, à ce moment-là, que nous ayons des élections comme on l'espère. En tout cas, je ne vois pas.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Confusion persistante à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le procureur général de la République a suspendu depuis la semaine dernière toute plénière de cette institution provinciale sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Le procureur général de la République a, la semaine dernière, suspendu les séances plénières de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur l'étendue de la capitale. C'est ce qu'a indiqué mardi dernier un communiqué du parquet général de la République. Signalons cependant que c'est dans un point de presse que cette décision a été rendue publique jeudi 23 septembre dernier, après que l'Assemblée provinciale de Kinshasa ait été empêchée plusieurs fois d'élire son nouveau président. Les grandes lignes de cette décision avec vous, Alain Irung.
Je vous enjoins d'interdire et d'empêcher sur toute l'étendue de la capitale congolaise les tenues des séances plénières de cette assemblée par toutes ces tendances et jusqu'à nouvel ordre, pouvait-on lire dans la lettre du PGR adressée à l'officier de police judiciaire à compétence générale et inspecteur provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa Gombe le mardi 21 septembre dernier. Toujours selon ce communiqué, le procureur général de la République poursuit, je cite, « Toutefois, M. Nsingi Bemba, présent en exercice de l'assemblée, exercera ses fonctions administrative pour assurer la continuité des services publics en attendant de nouvelles instructions. Dans ce même communiqué, le PGR confirmait que M. Nsingi Bemba Roger, président officiellement investi de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, avait informé toutes les autorités compétentes de la République de la tenue par lui d'une séance plénière mardi 21 septembre 2010 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parallèlement, déplorait-il, l'aile dirigée par son vice-président tenait aussi des séances plénières dans la même salle. Il y a lieu de réagir activement face à cette situation devenue explosive pour éviter des affrontements sanglants entre les protagonistes, avait fait observer l'avocat général de la République et officier du ministère public auprès de la Cour suprême de justice à Kinshasa Gombe.
Nelson Rutuba, je sais que vous êtes au nord Kivu, où l'Assemblée provinciale pose aussi des problèmes, parce que ça fait plusieurs fois que les plénières ont été reportées. D'abord, je vais vous demander de réagir à cette crise qui persiste au sein de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa.
Bien sûr, à l'instar de toutes les institutions provinciales du pays, l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas épargnée de l'instabilité, oui, d'une même invisible. Il est tout à fait incompréhensible si on assiste à une sorte de jeu de ping-pong entre deux pouvoirs, dont le judiciaire et le législatif. Nous avons tous suivi que Roger Nsingi, en ce instant, de cet organe délibérant, était accusé de détournement des milliers de dollars américains par les députés provinciaux. Ce dernier a été débarqué de son poste, ce qui est tout à fait normal dans un pays qui se veut être démocratique comme le nôtre. Cependant, personne ne sait comprendre et déterminer celui qui tire le système dans ce dossier, alors que le nouveau président a déjà été élu par ce même député provincial. Et l'on assiste donc à un acharnement de la part de la justice qui a d'abord échoué de faire rater la tenue de la plénière qui a été consacrée, bien sûr, à l'élection du nouveau président et qui continue à tenir mobilité pour que Roger Nsingi soit réhabilité dans ses fonctions.
Merci, Joël Kabé Danga. Erickson dit qu'on n'arrive pas à comprendre les ténèbres et les aboutissants de ce problème. C'est un problème, en fait, qui a pris de l'ampleur avec l'implication de la justice. On a pris même l'implication du chef de l'État. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Non, les ténèbres et les aboutissants peuvent facilement être perceptibles. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut pas dire qu'on ne connaît pas les ténèbres. Le problème, c'est le contrôle du pouvoir exécutif au niveau de la ville-province de Kinshasa. C'est là où il y a le problème. Les enjeux, c'est autour, est-ce qu'il faudrait accepter que Nsingi Bemba puisse partir, étant donné qu'il jouait à la défense du gouverneur de province ou du gouvernement provincial de Kinshasa. C'est là le premier enjeu. Le deuxième enjeu...
Il n'a jamais reconnu cela.
S'il vous plaît, il n'a jamais reconnu cela, mais en fait, c'est donc... on lui reproche. On lui a reproché de détourner le fonds public. Le deuxième enjeu à ce niveau, c'est aussi le MLC qui tient coûte que coûte à récupérer, à ne pas commettre la même bêtise qu'il a commise, et notamment à l'organisation de l'élection pour le poste du gouverneur dans la province de l'Équateur qu'il avait au départ, ou soit l'erreur commise en ratant ne plus qu'un seul poste lors des élections pour le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale à la déchéance de M. Vital Kamerhe. La troisième lecture que je fais de ce dossier, mon confrère, c'est que dans notre pays, la classe politique, c'est comme si les ridicules ne tuent plus. pour quelle raison le dis-je ? C'est lorsque vous constatez, M. Ntim, qu'il pouvait se servir de l'exemple ou du modèle caméra pour, en tout cas, sortir tête haute pendant que le pouvoir l'a quitté, mais lui veut que le pouvoir le quitte définitivement au lieu de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Et cette haute ne lui dit rien, les ridicules ne lui disent rien. Ce qu'il pouvait faire, c'est suivre l'exemple caméra, démissionner normalement, peut-être accepter que la procédure soit respectée pour, évidemment, jeter les pauses et organiser lui-même les élections pour le renouvellement du bureau, sortir un peu tête haute et rentrer à l'Assemblée provinciale parce que ce qui est vrai, qu'il gardera son mandat en tant que député provincial. Il ne va pas citer, on ne l'a pas chassé de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est des deux. Les autres, je trouve un peu en eux, elle était des ailes, mais c'était ces ailes-là qui est amère. Amère pour quelle raison? Parce que ils ont la légitimité. Mais la moindre des choses qu'ils devaient faire, c'est simple de jouer avec l'autre, qui était en train de bloquer tous les processus, qui était en train de bloquer toute la machine, jouer avec lui de telle sorte que les choses aboutissent ou atterrissent en douceur. Mais ils ont cherché à opposer quelque chose, et surtout, celui qui croit, ou soit qui croit avoir le pouvoir avec lui, qui a la légalité avec lui, parce que jusqu'à preuve du contraire, il faudrait que les choses se passent d'une manière normale, parce que jusqu'à preuve du contraire, il a encore le pouvoir, il a encore le marteau du pouvoir, et il faudrait attendre qu'il cède ce marteau d'une manière beaucoup plus légalement, de telle sorte que l'autre prenne le pouvoir. Ils ont la légitimité, ils n'ont pas la légalité, mais lui a la légalité, il n'a plus la légitimité.
Il y a ça comme cas là. Donc, Roger Kingi devait tirer les conséquences de cette situation et déposer le tablier.
Normalement, au lieu de nous soumettre à ce théâtre auquel on assiste, est-ce que la population de Kinshasa a-t-elle besoin de ce théâtre-là? Non. La population de Kinshasa voudrait voir la ville, par exemple, devenir propre. Voudrait voir l'exécutif être réellement contrôlé, sommé, par exemple, chasser des milices si jamais ils ne rendent pas nécessairement, ils ne servent pas nécessairement à cette population. Mais c'est ça le problème. Ce n'est pas ce théâtre auquel M. Roger Tilly est en train de nous soumettre. Le problème, on l'a dit, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, il y a un problème politique, tout simplement, qui se pose à ce niveau-là. Les amis d'hier sont devenus des ennemis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les uns n'ont pas retrouvé leur compte dans ce que Tilly est en train de faire maintenant. Voilà pourquoi ils l'ont lâché. C'est pour ça que dans notre pays, je vais tenter de dire quelque chose d'un sens de l'honneur. Hein. Vous voyez, quand on mélange l'amitié procède du sentiment. Et quand on parle du sentiment, on est dans la subjectivité. Conséquence, là où il y a l'objectivité, et l'objectivité c'est quoi? Ce sont les principes. Ça devient difficile. Au MLC, il avait des amis. Ils sont partis. Ce sont des choses politiques, il faut sauvegarder un poste pour l'honneur du MLC. On dira que le MLC contrôle la ville de Kinshasa à travers l'Assemblée provinciale. C'est une très bonne chose. Mais là-dedans, lui tisse des relations d'amitié avec des gens qui sont dans le cas opposé. Donc, le gouverneur, par exemple. Même s'il ne le reconnaît pas, mais on le sait. Il faut suivre les interventions de ce député-là. Ils vous diront que certains avaient des avantages, les autres n'en avaient pas. Et lorsqu'on essaie de suivre, on trouve que c'était entretenu par le président de l'Assemblée lui-même. Vous comprenez? Alors, Puisqu'on s'est retrouvé à ce niveau-là, mais c'est normal, ils ont estimé qu'il fallait être à l'opposition par rapport à lui, et voilà pourquoi le MLC l'a lâché, et on se retrouve dans cette situation-là. Mais l'autre chose, c'est qui fait regretter un peu, c'est lorsque la justice s'en mêle, alors que la justice pouvait faire son travail normalement, bien entendu que cette justice aussi, quelque part, à un niveau donné, certains postes qu'on occupe, ce sont des postes politiques. Hein. La justice n'avait-elle pas raison de prendre une telle décision parce que l'avocat général de la République a affirmé que la situation était devenue explosive? Oui, mais quand on m'appuie comme ça, c'est clair. Parce que bon, on estime que là où il y a un désordre, il faudrait que la justice plutôt qu'il y ait l'intervention de la police à travers les instances judiciaires. Ça, c'est normal. C'est comme ça qu'on habille. Mais la vérité, c'est que il y a quand même des pots de vin des parts et d'autres qu'il faut partager. Et puisqu'il faut partager, nécessairement, il faut sauver des gens. Alors, voyez-vous que le président de la République lui-même a eu une vision juste. Dès son arrivée, au citoyen informé, voici ce qu'il dit. Il estime, il souhaite, hein, bien sûr, comme il a toujours un langage aussi courtois, il dit qu'il souhaite un dénouement politique. Parce qu'il a compris que le problème n'a rien à voir avec, avec les institutions comme telles, mais c'est un problème politique au niveau des camps, des deux camps-là.
Et Joël Kadé, apparemment, vous avez quelque chose à ajouter. J'annonce aussi que le président qui a été élu récemment par le principe de piqué a convoqué une plénière qui s'est tenue aujourd'hui au siège de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple.
Je voudrais intervenir pour dire en ce qui concerne l'intervention de la justice. Le même problème s'est posé au Kassai occidental, le même problème s'est posé au Kassai dans la province orientale et tout comme au Bandundu. Pourquoi la justice n'était-elle pas intervenue?
À l'Équateur, à l'Équateur
également. Partout là, il y a eu des désordres au niveau de l'Assemblée provinciale.
Mais la victime avait saisi la justice.
Oui, les victimes avaient saisi la justice, mais je n'ai jamais vu que la justice prenne la décision d'interdire l'exercice de notre pouvoir qui n'est pas de son ressort. Et c'est là où ça sent le roussi, hein, c'est là où il y a un discours, confrère. Hein, parce que dans toutes les assemblées provinciales où il s'est posé le problème, jamais on a vu la justice interdire qui est la tenue. Et c'est parce que peut-être aujourd'hui, c'est là où j'ai rejoint Innocent lorsqu'il parle du maquillage, hein, pour présenter d'une manière politique l'affaire. C'est ce maquillage-là qui inquiète un peu. Et c'est ce maquillage qui cache quelque chose qui n'est pas appréciable.
Et nous rappelons que la session en cours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, elle est budgétaire. Et dans moins de deux semaines, cette session va prendre fin. Et le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa risque de travailler sans budget les conséquences.
Mais ça, c'est pas l'enjeu. C'est pas l'objectif. Et qui est facilement atteint par le gouvernement provincial. Voilà.
Merci. Nous abordons notre dernier thème de ce soir. Discours du président Joseph Kabila à la 65e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. La République démocratique du Congo est résolument déterminée à éradiquer le phénomène des groupes armés étrangers sur son territoire. C'est ce qui explique les opérations militaires organisées systématiquement depuis 2009. Cette déclaration est du président Joseph Kabila jeudi dernier à la 65e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Du haut de la tribune de l'ONU, le chef de l'État congolais a aussi abordé les questions de la réforme des Nations Unies ainsi que du développement et de la justice en République démocratique du Congo. L'organisation des élections et les problèmes liés à l'environnement étaient également évoqués. On écoute le président Joseph Kabila s'exprimant sur la question de l'organisation des élections.
Sur le plan de la gestion politique et administrative, il est prévu la tenue en 2011 des élections présidentielles et législatives. Mon gouvernement met un point d'honneur à la consolidation de la démocratie par le respect du cycle électoral, la redevabilité vis-à-vis du scrutin primaire et le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution dans le cadre du processus de décentralisation.
Alexandre Retouba, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Victoire Horizon, c'est une radio qui émet depuis Butembo au nord Kivu. Le chef de l'État affirme la détermination de la RDC à éradiquer les groupes armés étrangers sur le territoire de la RDC. Et comment vous analysez les propos du chef de l'État?
Oui, il s'agit d'un discours qui a été apprécié par plus d'un observateur. Il était général et il a touché dans tous les aspects de la vie tant dans les pays comme au sein de la communauté internationale. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est que le président de la République démocratique du Congo est revenu sur la situation de l'insécurité dans la partie est du pays où des cas de viol commis contre les femmes sont enregistrés presque au quotidien. À cela s'ajoute la question du développement du pays qui était aussi abordée par le raïs. Cependant, on a déploré le fait que le président a gardé son silence sur le rapport en gestation au sein de la communauté internationale et lequel rapport qui cite le Rwanda être auteur des viols et autres exactions commises contre les populations congolaises pendant la période de guerre à l'est du pays.
Il faut rappeler que lorsque le président Joseph Kabila a prononcé son discours à la tribune des Nations Unies, ces rapports n'étaient pas encore publiés officiellement.
Oui, Rembrandt a dit que je pensais que le président pouvait profiter de cette occasion pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation d'agression dont le pays a été victime de la part de certains de ses voisins. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que le président Joseph Kabila Kabange a prouvé ou montré la position de son pays sur l'élargissement du Conseil de sécurité qui ne doit pas être considéré comme une fusée interne à une catégorie qui déterminait les pays qui se disent
plus puissants. Oui, Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes journaliste à Global Télévision, c'est une télévision qui est née depuis Kinshasa. Le chef de l'État confirme la tenue des élections présidentielles et législatives en 2011. Votre analyse.
Bon, je crois que c'est très bien pour pouvoir tenir un tel discours, essayer de convaincre l'opinion internationale sur le caractère sérieux du gouvernement que nous avons et qu'il a la charge, bien sûr, de conduire dans une certaine mesure en tant que chef de l'État de la République démocratique du Congo. Et c'est très bien, puisqu'il a été élu sur base d'un discours, et que parmi les mots que j'avais retenus, on a dit que c'était l'homme qui tenait toujours à ses paroles, à ses promesses, et donc le rappeler, ça n'est pas qu'une bonne chose. Mais moi, je pense que ce discours-là, il m'a laissé quand même dans une certaine soif. Parce que j'aurais souhaité que le président de la République prenne des bonnes positions sur des questions d'ordre, disons, des questions d'intérêt planétaire. Et cette question, bien sûr, avec la RDC là-dedans. C'est par exemple la question de la paix. Que le président ait dit, par exemple, que qu'on puisse avoir un bureau au niveau de l'Afrique centrale qui s'occuperait des questions de sécurité en RDC, c'est une chose, mais notre ami qui est à Mutombo essaie de le dire. Mais je crois que vous avez dit que le rapport n'était pas encore publié officiellement. Voilà. Mais le sens de l'anticipation aurait aussi voulu que le président de la République dise, par exemple, que nous, en tant que pays, nous avons été victimes, parce que le Rwanda, ce rapport qui était arrivé et puis retiré, avait déjà donné sa position. Et donc, personne n'avait empêché le Rwanda de prendre position par rapport à cette question-là. Donc, le président de la République aurait pu peut-être réclamer, profiter, surtout quand on est à la tribune de la Nation Jubilée, c'est-à-dire, on est en concert, c'est tout le monde là-bas. Et donc, je crois que ça aurait été intéressant que le président fasse ça. Prendre position, parce que jusque-là, on ne connaît pas quelle est la position de la RDC par rapport à ces frontières qui ont été gelées, à tous ces gens qui sont venus se battre, toutes les victimes, toutes les personnes qui sont mortes. Bon, et le président n'a rien dit. Je crois que ça me laisse quand même un peu avec un goût d'inachevé. J'aurais souhaité que le président.
Il a parlé de l'éradication des groupes armés.
Ça ne suffit pas de le dire de cette manière-là. J'aurais souhaité plutôt prendre des positions, des mesures sérieuses.
Et Joël Tadé Ndanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a parlé du parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution dans le cadre du processus de décentralisation. L'on peut espérer que la décentralisation telle que prévue par la Constitution sera effective dans la prochaine législature.
Bon, peut-être dans la prochaine législature, ça pourrait être possible, mais je ne vois pas. Parce que, en tout cas, le pays n'est pas préparé pour la décentralisation. Vous avez entendu les remous par-ci par-là, dans les provinces particulièrement, où les petites communautés n'acceptent pas les autres. Et ils ont une mauvaise perception de la décentralisation. Les autres pensent que décentralisation, c'est demander aux non-autochtones d'aller chez eux et. Il n'y a pas une même perception. Il faudrait peut-être faire précéder cela par une bonne sensibilisation, par une bonne vulgarisation. Je voudrais quand même dire un mot sur ce que le confrère Innocent venait tantôt de dire, que le chef de l'État n'a pas tenu un discours d'une manière souveraine. Moi, je dirais le contraire. En tout cas, c'était un discours tenu dans les conditions et qu'il fallait le faire c'est devant ses collègues. Et n'oubliez pas, avec les pays de l'Est, avec qui nous étions en guerre, nous sommes dans un certain réchauffement des relations diplomatiques. Et en diplomatie, il y a ce qui peut se dire tout haut, il y a ce qui peut se dire tout bas, de telle sorte à maintenir cette paix que nous avons acquise avec beaucoup de difficultés.
Merci, c'est la fin de cette émission. Willem Lungamba était à la technique, Kelly Kouté a réalisé cette émission, assisté de Samuel Kafiak sous la supervision de Martin Kebouzangwe. Guy Massé vous l'a présenté. Merci et excellent week-end sur Radio Okapi. Thank you.
Pocatinho, pocatinho.